Vous écoutez
RMC.
Mardi 27 septembre,
l'info sur RMC.
Il est tout pile 7h et nous sommes très heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez dans Apolline Matin sur RMC, sur RMC Story. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les jeunes médecins menacent de faire grève. Études allongées d'un an, suppression de l'intérim. Ils rejettent les mesures annoncées par le gouvernement. À Nantes, deux Soudanais accusés du viol d'une femme sont en prison. L'affaire suscite un débat sur la sécurité dans la ville. Et puis à 2 mois du mondial, Didier Deschamps réfléchit à sa liste de joueurs. Compliqué de se passer de ces cadres, vous le verrez.
La colère des jeunes médecins ce matin, une grande mobilisation annoncée le mois prochain.
Appel du principal syndicat d'internes, la série de mesures présentées dans le cadre du budget de la Sécu 2023 inquiète énormément. Leur étude et leur premier pas dans la profession risquent d'être bouleversés, Garance Munoz.
Il y a d'abord la suppression de l'intérim pour les étudiants qui sortent de l'internat. Mauvaise idée, selon Laura, étudiante en quatrième année, pour qui l'intérim est une chance de découvrir des services ou travailler ensuite.
Mais je pense pas que les gens se dirigent vers une carrière d'intérimaire. En général, c'est vraiment plus un stade pour se lancer dans la vie active.
Mauvaise nouvelle aussi, l'obligation d'une année d'internat supplémentaire, de quoi la décourager, elle qui aimerait devenir médecin généraliste.
On sera à Bac plus 9, on aura peut-être envie de se poser, de commencer à construire sa vie personnelle et professionnelle. Et...
D'autant que cette année sera dans un désert médical. Là où par définition les internes risquent de manquer d'encadrement, souligne Mehdi, étudiant en cinquième année.
M'envoyer au sein d'un désert médical sans infrastructure en termes de système de santé sur lesquels m'appuyer, c'est pas quelque chose qui me donne envie.
Quel statut, quelle rémunération, il reste encore trop d'inconnus et Florence Lapica, vice-présidente des médecins généralistes de France, craint une réforme faite dans la précipitation.
Le but, c'est que ces jeunes médecins restent ensuite dans des zones où on manque de médecins. C'est de ne pas les dégoûter. Donc il faut absolument que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent exercer correctement leur travail.
Le principal syndicat d'internes en médecine prévoit une grande mobilisation jusqu'à la grève si besoin pour protéger contre cette mesure.
Des craintes aussi côté enseignants. À première vue, l'enveloppe annoncée hier est plutôt belle, 935 millions pour la rentrée 2023. Mais quand on sort la calculette, le compte n'y est pas pour Sophie Vénitité, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU.
On a quand même l'impression d'une forme de tromperie par rapport aux engagements présidentiels. On se souvient par exemple qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait promis une augmentation de salaire de 10%. Pour tous les enseignants en janvier 2023, nous, on a fait nos calculs au SNES-FSU et on a calculé que s'il fallait augmenter de 10% tous les enseignants de septembre à décembre 2023, ben, ça coûtait 1,2 milliard. Donc, on voit très bien que là, le compte n'y est pas. Aujourd'hui, il faut des gestes forts pour recruter plus d'enseignants. Et là, aujourd'hui, les gestes sont très loin d'être à la hauteur de la crise de recrutement qu'on vit.
Vous l'aurez compris, le gouvernement qui a détaillé hier le budget de l'État pour 2023, un budget à l'euro près selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. À noter aussi le recrutement de 10 000 fonctionnaires et le niveau d'imposition indexé sur l'inflation. Objectif, pas d'augmentation de nos impôts. Par contre, le tabac prendra 35 centimes en 2023. Ils réclament une hausse des salaires. Les salariés de Total Energy ont démarré ce matin une grève d'au moins 3 jours, grève à l'appel de la CGT. Ils menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburant.
Et il est 7h03 sur RMC. Deux suspects écroués après le viol d'une femme à Nantes.
Deux Soudanais de 17 et 27 ans soupçonnés d'avoir agressé sexuellement cette femme de 40 ans en pleine rue et en pleine nuit. Les deux hommes nient les faits, mais les images de l'agression ne laissent aucun doute, Marion Dubreuil.
L'agression a duré plus de 5 minutes. Ce sont notamment les images de vidéosurveillance qui ont permis de confondre les deux suspects. On voit deux hommes s'en prendre à la victime qui se débat. L'un tire la quadragénaire pendant que l'autre la viole digitalement et réciproquement. La victime a tenté de leur échapper avant d'être rattrapée et de subir une nouvelle agression. Un troisième homme présent au moment des faits et suspecté au départ a été dédouané. C'est l'arrivée de passants alertés par les cris de la victime qui ont mis en fuite les agresseurs. Les deux hommes ont été interpellés rapidement après les faits en état d'ébriété. Il s'agit de deux réfugiés soudanais en situation régulière, âgés de 17 ans et 27 ans, arrivés en France il y a quelques années. Ils étaient jusque-là inconnus de la justice.
Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC. J'ajoute que les deux suspects ont été mis en examen pour viol en réunion en état d'ivresse manifeste. On en vient au drame de Millas et ce procès intense. L'audience va reprendre sans la conductrice hospitalisée après son malaise cardiaque jeudi dernier. Alfred Orange, le tribunal a rejeté les demandes de suspension des parties civiles.
Côté défense, on considère que l'absence de Nadine Oliveira déséquilibre la suite du procès. C'est ce que pense son avocat, maître Louis Fagnier, d'autant que c'est aujourd'hui qu'est examinée la personnalité de la conductrice.
Ça aurait été important de l'avoir à côté. Donc oui, c'est biaisé. C'est contre son gré qu'elle ne peut pas participer au débat. Et je rappelle quand même, ça n'est pas anodin, que c'est en cours d'audience qu'elle a eu un infarctus. Donc l'audience n'est pas étrangère à la situation qui maintenant l'éloigne.
Mais le tribunal considère que la conductrice a donné son pouvoir de représentation à ses avocats et que le procès peut donc se poursuivre, et c'est l'essentiel pour Fabien Bourgeonnier, père d'une des victimes.
J'aurais préféré avoir des réponses de sa part. Maintenant, les avocats de la défense, ils sont là pour pouvoir la représenter. C'est ce qui était prévu à la base. À la base, elle n'était pas obligée de venir se présenter. Voilà. Donc, ils ont tous les documents nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, continuons ce procès. Continuons-le.
Le procès doit se tenir jusqu'au 7 octobre prochain.
Les victimes qui veulent donc des réponses après cette collision mortelle entre un car scolaire et un TER qui avait fait, je vous le rappelle, 6 morts des collégiens. Paris condamne la répression des manifestations en Iran qui aurait fait 75 morts selon une ONG, mouvement de protestation provoqué par le port d'une jeune femme, par la mort pardon, d'une jeune femme arrêtée car ses cheveux dépassaient de son voile. C'était il y a 10 jours. Dans ce contexte, le 1er décembre, le président américain Joe Biden recevra pour la première fois Emmanuel Macron. Ça sera un rendez-vous à la Maison-Blanche.
7h06, le foot à 2 mois du Mondial. Retour sur une défaite qui fait mal.
Celle des Bleus face au Danemark en Ligue des Nations, c'était dimanche. Eh bien, Didier Deschamps réfléchit maintenant. Il a encore quelques semaines pour tirer les leçons avant de boucler la liste des 23, Jean Rességuier.
Sans accabler des joueurs inexpérimentés, le sélectionneur s'est rendu compte qu'il allait avoir du mal à voyager au Qatar sans Lloris, Lucas Hernandez, Kanté ou Benzema pour ne citer que, même s'il décidait d'élargir légèrement sa liste, en défense ou au milieu notamment, des joueurs comme Upamecano ou encore Badiachil et Saliba ont du souci à se faire. L'exigence du très haut niveau dont parle souvent Deschamps prendra tout son sens au moment du choix final. Le jeune Camavinga va devoir hausser son niveau de jeu avec le Real pour espérer convaincre le sélectionneur. Il n'est pas le seul, Deschamps n'a pas mâcher ses mots. Dans le vestiaire à Copenhague, les Danois nous ont donné une leçon dans les duels. Bref, les lacunes étaient trop nombreuses pour délivrer une copie correcte. Le bilan de ce rassemblement sera fait dans les prochains jours, mais le constat est là. Comme dans toutes les équipes, certains joueurs sont indispensables.
J'aurais essayé pour RMC Sport et un des futurs adversaires des Bleus, la Tunisie, les Aigles de Carthage qui disputent leur dernier match de préparation au Parc des Princes avant le Mondial. Ça sera ce soir face au Brésil à guichet fermé et l'after sera en direct de 20h à minuit sur RMC bien sûr.
C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h07 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous et c'est Élise Dangean qui s'y colle. Salut chère Élise. Ce matin, on parle pénurie de chauffeurs de bus. Vous avez été alertée par une maman dont le fils n'a tout simplement plus les moyens de transport pour aller et revenir du collège.
Anne est une maman qui travaille beaucoup. Elle enchaîne deux boulots et depuis la rentrée, elle fait aussi office de chauffeur pour son fils aîné Louis et ses copains en classe de 6e au collège de Villeneuve-sur-Bello en Seine-et-Marne. L'établissement se trouve en pleine campagne à 15 km de chez elle. Il est normalement desservi par les lignes 34 et 34 S3, sauf que depuis la rentrée, les bus ne passent plus, ou en tout cas au compte-gouttes. S'ils ont de la chance, les collégiens ont droit à un bus le matin et un le soir, mais à des horaires qui ne correspondent pas toujours à leur emploi du temps. Et les familles sont prévenues à chaque fois à la dernière minute.
On ne comprend pas pourquoi ce sont nos enfants qui sont lésés. On préférerait qu'ils ne fassent pas passer les bus pour les adultes qui vont au travail, par exemple, qui peuvent avoir une solution. Et privilégier plus nos enfants qui, eux, arrivent en retard, loupent des heures de cours, sont obligés de partir en avance, loupent des heures le soir pour pouvoir être amenés chez eux.
Ah ben, franchement, on n'a qu'une envie, c'est d'être du côté de cette maman. Que disent les élus?
Alors franchement, ils se démènent. Hein. Ils ont alerté la sous-préfecture, le département, la région et bien évidemment Transdev qui gère ces deux lignes. Le transporteur explique la situation par la pénurie de chauffeurs qui frappe la France, mais surtout l'Île-de-France. Argument insuffisant pour Edith Théodos-Poma, la maire de Saint-Cyr-sur-Morin. C'est une commune de 2000 habitants qui se trouve sur les deux lignes impactées.
Là où c'est grave, c'est que ça a mis en insécurité énormément de gamins. On a des gamins sur les bords des routes qui font du stop, non mais c'est inadmissible, qui errent dans les villages parce qu'ils n'ont pas eu de transport. Ou après, des parents qui ont pris dans leur véhicule des enfants sans avoir l'assurance pour transporter les enfants. Enfin voilà, plein de problèmes quand même qui sont très préoccupants et pour lesquels on voudrait une résolution extrêmement rapide.
Vendredi dernier, après leur mobilisation, les élus des communes concernées ont finalement été reçus par Transdev.
Et alors, ça a donné quoi ?
Eh bien, on a contacté directement le transporteur pour en savoir un peu plus. Il reconnaît pleinement les perturbations sur ces deux lignes et s'en excuse auprès de ses clients. Ça compte.
Okay, bon.
Pour l'heure, sa marge de manœuvre est très réduite car la pénurie de chauffeurs touche tous les opérateurs. Impossible donc de sous-traiter, par exemple. Transdev, qui espère un retour à la normale en début d'année prochaine, s'engage toutefois à rétablir une offre allégée mais stable après les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui, tous les transporteurs de la région seront reçus par Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité, qui entend leur mettre un coup de pression, nous dit-on, en interne. Clément Beaune, le ministre délégué chargé des transports, n'a lui pas répondu à nos sollicitations. Pour rappel, il manquait à la fin de l'été plus de 4000 conducteurs de bus sur tout le territoire.
Merci Élise, je trouve le témoignage de la maire de cette commune glaçant. C'est-à-dire quand même les enfants de 6e qui se retrouvent à ne pas pouvoir rentrer chez eux, à en être à faire du stop, c'est délirant. Je trouve quand même que la réponse de Transdev, qui ne répond pas notamment sur la question de mettre plus de bus au moment des enfants plus que des parents, et pour l'instant pas du tout satisfaisante. Je compte sur vous, Élise, je sais bien.
On y reviendra.
Avec RMC pour vous, pour ne pas lâcher l'affaire, vous connaissez l'adresse rmcpourvous@rmc.fr pour nous contacter. Il est 7h11 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Un Français sur deux a déjà vécu ou vit en ce moment en HLM. Mais bien souvent, ce sont des véritables passoires thermiques. Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale de l'habitat, lance l'alerte sur RMC. Elle est la témoin du jour dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez.
Le témoin RMC.
C'est vous, Emmanuelle Cosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Il y a le congrès des HLM qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte très compliqué. Le gouvernement a annoncé un bouclier tarifaire qui devrait couvrir les locataires des logements sociaux. Mais on l'a entendu notamment par la voix d'un auditeur hier qui disait qu'il avait énormément de mal à tout simplement répondre aux appels à provision de son bailleur qui tout d'un coup lui demandait de payer beaucoup plus cher l'électricité. C'est une situation visiblement qui est assez large. Est-ce qu'il y a un trou dans la raquette ? Est-ce que les bailleurs n'ont pas véritablement accès à ce bouclier tarifaire ou est-ce que tout simplement ils ne le savent pas ?
Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bailleurs HLM, ils achètent l'énergie pour le compte de leurs locataires. On l'achète en gros. Et donc, depuis longtemps, on a en fait des prix qui étaient beaucoup moins chers que pour une personne qui achète individuellement son gaz. Mmh. Donc, on achetait le gaz à la molécule à 20 euros, à 30 euros. Aujourd'hui, le bouclier tarifaire, il a 68 euros. Et on achète le gaz sur le marché entre 120 et 250 euros. Donc même si on a le bouclier tarifaire, faut bien comprendre que pour nos locataires qui avaient payé 20 euros, même s'ils ont un bouclier à 68, ça augmente fois 3. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on s'est battu depuis longtemps.
Ce qui était votre force jusqu'à
évidemment,
présent,
évidemment.
C'est-à-dire le fait d'être indépendant justement des prix du marché pour les particuliers, c'est en train de se retourner contre vous et donc contre les locataires.
Et contre les locataires, nous on marche pas sur l'achat de l'énergie, on l'achète et on la refacture aux locataires et c'est pour ça qu'on demande depuis plusieurs mois d'être aidés. Alors on bénéficie du bouclier tarifaire sur le gaz, on n'en bénéficie pas sur la question de l'électricité, mais on nous dit qu'on va nous aider prochainement. Et puis on n'était pas non plus aidés pour acheter l'électricité moins chère pour les parties communes et semble-t-il le gouvernement il préfère un geste. Mais malgré tout, ça va de toute façon être plus cher. Et nos locataires, il y a 35% de nos locataires qui sous le seuil de pauvreté. Donc évidemment que c'est très dur pour eux de faire face à une augmentation des charges.
Alors concrètement, vous dites, Emmanuelle Cosse, que le gouvernement est prêt à faire un geste, mais il y a quand même quelque chose d'un peu étrange, c'est-à-dire que je posais la question d'ailleurs à la Première Ministre hier, mais Emmanuel Macron lui-même la semaine dernière disait que ceux qui se retrouvaient face à des factures soudain exorbitantes, il les encourageait quasiment à désobéir, en tout cas ne pas signer ces factures. Mais est-ce qu'il y a d'autres options ? Enfin, vers qui vous pouvez vous tourner à un moment ?
Non, mais surtout...
trouver de l'électricité quelque part, quoi.
C'est ce que j'allais vous dire. En tout cas, moi, j'attends de lire un décret, une circulaire qui m'explique que je ne dois pas aller acheter de l'énergie pour chauffer mes logements cet hiver. Donc, j'ai bien entendu ce qu'a dit le président de la République, qui a été répété par le ministre du Logement, la Première ministre. Mais moi, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça veut dire. Et je ne peux pas laisser les locataires dans l'angoisse de savoir comment ça va se passer cet hiver. Donc, de toute manière, nous, on essaie d'une part d'accélérer les travaux pour, en effet, réhabiliter plus vite des logements.
Et que ce soit moins de passoires thermiques et donc, à la fin, moins de consommation d'électricité.
Mais je tiens à le dire, les logements HLM, c'est là où il y a le moins de passoires thermiques en France. Il faut faire attention à ce qu'on raconte.
C'est important que vous nous le dites, vous nous le disiez ce matin, parce que c'est vrai que contrairement à une idée reçue, où au contraire, l'idée commune, c'était de dire que les logements HLM étaient des passoires thermiques, vous nous dites non, aujourd'hui,
non, ce n'est pas le cas. On a 44% de nos logements qui sont dans les meilleures classes énergétiques, les ABC, et on a en fait une vingtaine de pourcents qui sont encore dans les classes EFG. Mais c'est beaucoup moins que le reste des logements en France, mais c'est pas parce qu'il y en a beaucoup moins qu'il faut quand même pas agir. Donc moi, je veux éradiquer toutes les passoires thermiques dans le cadre de la loi, et ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider justement à cette accélération. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a besoin de garanties sociales. Alors, je ne sais pas si c'est demain plus de chèques énergie, un montant plus élevé, plus de ménages qui y ont droit, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser les locataires HLM tout seuls face à des factures qui sont objectivement beaucoup plus élevées.
Ce que vous dites, c'est que même s'il y avait un bouclier tarifaire, ça ne pourrait pas passer à moins de 15% d'augmentation, ce qui va à peu près toucher tous les Français en janvier. Et ça, vous dites, moi, mes locataires, ils n'ont pas les moyens.
Non, ils n'ont pas les moyens. Alors, on va travailler sur les éco-gestes, on va travailler sur des fonds de garantie, des aides sociales, on va essayer de faire le maximum. Mais malgré tout, l'énergie qui est consommée, il faut bien qu'à un moment, quelqu'un la paye. Et donc, ça montre bien, surtout, que cette transition vers moins de consommation, plus de sobriété, qu'on soit moins dépendant des fournisseurs de gaz et d'électricité, que peut-être demain, on ait plus d'énergie renouvelable dans notre chauffage et dans l'eau chaude. Voilà, on voit bien qu'on est très en retard et on le paye ici, cash, actuellement, vraiment très fortement. Et moi, c'est vrai que je pense à certains de nos locataires qui vivent avec un SMIC, qui travaillent à temps plein, qui vivent avec le SMIC. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, ils sont inquiets.
Emmanuel Cosse, vous avez été secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts pendant 3 ans. Comment vous regardez la situation actuellement ? Est-ce que Julien Bayou devait démissionner ?
Ah, franchement, je vais vous dire, je vais commenter rien de ce qui se passe dans ce parti écologiste. Je pense que surtout aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on aide les Français à vivre ce défi mondial qui est la question de la transition écologique.
Vous ne vous sentez pas concerné par ce que devient le parti aujourd'hui ?
Je pense que c'est pas le sujet. Je vais vous dire, c'est pas le sujet. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les écologistes soient utiles à la société et aident le pays à faire sa transition. Le reste, c'est objectivement des choses que moi, je ne veux pas commenter.
Emmanuel Cosse, président de l'Union sociale pour l'habitat, merci d'avoir alerté ce matin sur ces prix qui explosent et sur le danger pour vos locataires de HLM de tout simplement ne pas pouvoir faire face au prix de l'énergie. Il est 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le gouvernement a détaillé le budget pour l'année prochaine. Quelles sont les bonnes et les mauvaises nouvelles pour votre portefeuille ? Les réponses d'Emmanuel Le Chypre. Et puis, il pirate le 32-16 tous les matins à 7h20. Arnaud Demange nous rejoint dans 10 minutes.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets RMC avec Pierrick Bonneau. Bonjour Pierrick.
Bonjour Apolline.
Les députés de la NUPES se réunissent tous à l'Assemblée cet après-midi pour préparer la rentrée parlementaire. Enfin, tous ou presque, hein, parce qu'on sait déjà qu'il y aura 2 députés qui ne seront pas là.
Indiscrétion RMC, ni Adrien Quatennens ni Julien Bayou n'ont prévu d'y assister. Il faut dire qu'on les imagine mal s'asseoir à côté de leurs collègues et faire comme si de rien n'était. Le député LFI, je le rappelle, est accusé de violence physique contre son ex-compagne. Le député écologiste de violence psychologique. Comment voulez-vous que Julien Bayou vienne parler de la réforme des retraites ou du budget de la Sécu dans ces conditions ? Il est grillé pour des semaines, regrette l'un de ses soutiens, selon qui le député va avoir du mal à siéger dans l'hémicycle.
Et ces deux affaires, forcément, ça fait tanguer la NUPES. Hein.
Et oui, ces deux crises coup sur coup font ressurgir les tensions au sein de l'alliance de la gauche. Ça va les faire redescendre un peu, les insoumis lâchent un cadre du Parti communiste. Ils se croyaient tout permis depuis les législatives. Au moins, ces sales histoires auront le mérite de rééquilibrer les forces. Un député socialiste n'y va pas par 4 chemins. Moi, c'est très clair, je ne discute plus avec des élus qui ne sont pas capables de condamner comme il se doit les violences faites aux femmes. Bon, vous l'aurez compris, l'ambiance risque d'être un peu tendue cet après-midi à l'Assemblée. Et il n'y aura pas de caméra pour filmer ça. Le séminaire aura lieu à huis clos. Seule séquence ouverte aux journalistes. Une conférence de presse demain soir où il sera uniquement question de la rentrée parlementaire.
Ça veut dire si on pose une question qui n'est pas sur la rentrée parlementaire, on se coupe le micro.
Il n'y a pas de réponse.
Il n'y aura pas de réponse. C'est indiscret du service politique d'RMC tous les matins 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h23, c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Alors Emmanuel, hier, le budget est arrivé.
Oui.
Emmanuel,
oui, les Jeux Olympiques à moi.
Passion budget 2023. Le gouvernement a donc présenté son budget et il y a plus de gagnants que de perdants, vous nous dites ce matin.
Oui, clairement, ça n'est pas un budget de rigueur. Hein. Bruno Le Maire a dit c'est un budget à l'euro près. On est plus à l'euro de plus qu'à l'euro de moins quand même hein, en matière de dépenses, puisque en termes de catégorie sociale, presque tout le monde y gagne, y compris les Français les plus aisés.
C'est vrai en matière d'impôts, par exemple, hein, grâce au relèvement avec l'inflation des seuils d'imposition, qui font quand même économiser aux Français 6,5 milliards d'euros. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même un gros chèque que les Français n'auront pas à payer au fisc. C'est vrai aussi en matière de facture énergétique, puisque le nouveau bouclier tarifaire limitera la hausse de la facture d'énergie pour tout le monde à 15%. Les petites entreprises aussi sont mieux protégées. Et puis si on regarde par ministère, ce qui est le jeu classique, eh ben il y a quasiment pas de perdants. Tous les budgets sont à la hausse, sauf les anciens combattants. Et merci.
Bon, enfin, il y en a un peu moins, tristement, hein, mécaniquement.
Et il y a plus de fonctionnaires aussi, hein. Donc, les fonctionnaires sont plutôt gagnants. 11 000 recrutements.
Il y a quand même des perdants, Emmanuel.
Oui, alors, il y a quand même les propriétaires, hein, puisque le gouvernement avait promis de limiter la hausse de la taxe foncière et notamment des valeurs locatives, hein, qui sont ces loyers fictifs sur lesquels s'appuie le calcul de la taxe foncière. Bon, ce sera plafonné, mais à 6% quand même. Donc, la taxe foncière va augmenter. Les automobilistes, les grands perdants de ce budget, ce sont les automobilistes, puisque les ristournes sur les carburants s'arrête en janvier. La seule mesure qui sera à la main des employeurs, c'est la possibilité de doubler l'indemnité annuelle de carburant de 200 à 400 euros. Mais rien d'autre pour eux, pardon. Et puis les fumeurs, on en a déjà parlé beaucoup.
En fait, les automobilistes et les fumeurs, c'est quand même...
Les automobilistes et les fumeurs. Quoi. C'est ciblé, ouais, c'est nos auditeurs en fait. Hein. Je sais pas pourquoi on s'en prend.
Non mais c'est ça, c'est exactement ça.
Et puis il y aura un petit chèque
d'un milliard qui roule et qui fume,
qui sera demandé aux labos pharmaceutiques aussi.
Qui vont devoir quand même.
S'ils sont d'accord. Hein. Ça reste à négocier.
Ah, pourquoi? Parce que vous pensez
qu'il parce que c'est dans le projet de budget.
Ça m'étonnerait
mais
qu'il soit d'accord
pas,
quand même.
Ah bah ça va se discuter.
Parce qu'il y a des taxes avec lesquelles on peut négocier, pas d'autres.
Bah, c'est-à-dire que c'est prévu dans le budget de la sécurité sociale que les labos pharmaceutiques contribuent à hauteur d'un milliard d'euros. Est-ce qu'ils seront d'accord? C'est un peu comme avec les banques et les assureurs, va falloir
et
négocier.
Et un peu comme avec Total qui en effet fait un peu la pluie et le beau temps. 7h25, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
Demanche pirate le 32-16.
Arnaud Demanche dans ce studio. Cher Arnaud, ce qui fait réagir au 32-16, c'est la victoire de Giorgia Meloni en Italie, la candidate post-fasciste du parti Fratelli d'Italia, admiratrice de Mussolini.
Oui, déluge de réactions évidemment suite à la victoire de la candidate d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui va sans doute prendre la tête du gouvernement italien, avant de prendre la tête à tous les gouvernements européens. Et on a Gilles de Champrépuce qui nous dit, c'est marrant parce que Fratelli d'Italia, Mussolini, fascismo, quand il y a un accent italien, ça paraît quand même tout de suite plus sympathique. Alors que die Grünen, ça fait agressif et pourtant c'est les écolos allemands. Jean-Marie Le Pen nous a appelé pour saluer la victoire de Giorgia Meloni. Je note que Madame Meloni... Je ne suis pas imitateur, encore une fois.
De plus en plus.
C'est une évocation. Je note que Madame Meloni a affirmé admirer Mussolini et résultat, elle gagne. Marine Le Pen fait des photos avec des chatons et la défaite est une conséquence tout à fait prévisible, n'est-ce pas, voyez-vous? Ça va Manu? On va lui en faire des évocations à Manu.
J'adore.
Donc c'est un phénomène médiatique, cette victoire de Giorgia Meloni. CNews nous a même envoyé un communiqué audio, on l'écoute.
Toute la semaine, CNews bouleverse sa grille pour analyser la situation italienne. À midi, émission spéciale, Benito Mussolini, itinéraire d'un incompris, suivi d'un grand débat, collaboration, et si ils avaient eu raison trop tôt. Présenté par Christine Kelly, qui va nous demander, avec son air faussement ingénu de d'habitude, et finalement, les fascistes était-il vraiment fasciste?
Ben voilà, un très beau programme, ça promet.
Arnaud Demanche tous les matins et on vous retrouve Arnaud à 8h20. À tout à l'heure Arnaud, 7h27 sur RMC. Presque 7h30 et c'est la fraîcheur qui domine, Géraldine.
Fraîcheur et averse, il y en aura vraiment pour tout le monde. On a ces averses qui sont assez importantes des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est ce matin. Quasiment partout cet après-midi avec du vent. Le pourtour méditerranéen épargné, mais pas par le vent. En revanche, avec de grosses rafales, notamment sur la Corse. Et la fraîcheur, oui, bien présente. Un temps de Toussaint cet après-midi. 13 à 17 degrés en général. Autour de 20 près de l'Atlantique. 21 à 25 près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Engie pour les professionnels. Élu service client de l'année 2022 dans la catégorie fournisseur d'électricité et de gaz.
7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'insécurité pointée du doigt à Nantes après le viol d'une femme en pleine rue le week-end dernier. Le paquet de cigarettes bientôt à 11 euros. Les buralistes craignent la recrudescence du marché parallèle. Et la riposte de Julien Bayou qui évoque une manœuvre politique après les accusations de violence morale dont il fait l'objet.
Des voix s'élèvent contre l'insécurité à Nantes.
Et ce qui déclenche la colère de certains habitants, c'est le viol d'une femme de 40 ans en pleine rue le week-end dernier, agressée par deux réfugiés soudanais, mis en examen et écroué hier soir. Le préfet reconnaît que l'insécurité repart à la hausse depuis le Covid à Nantes, au point de bousculer le quotidien des Nantais. C'est ce que nous dit Jules Housseau à Nantes pour RMC.
Sortir le soir à Nantes, beaucoup ont fait une croix dessus. Pas pour une question de budget, mais d'insécurité, ou du moins de sentiment d'insécurité.
Pour passer 22 heures, j'évite de sortir toute seule le soir sur Nantes, quoi.
Bah, personnellement, si je trouve personne pour sortir le soir, je sors pas.
J'ai peur de me faire accoster dans la rue, embêter, voler, agresser. Enfin, depuis quelques années, c'est de pire en pire.
Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette insécurité supposée comme une recrudescence du trafic de drogue, mais aussi un afflux de jeunes migrants qui se retrouvent dans la rue. Et pour certains violents, Catherine Libaud, présidente de l'association Accompagnement Migrants Intégration à Nantes.
Certains arrivent, ils sont mineurs, mais dès 18 ans, cet arrêt brutal de l'accompagnement, ce sont des jeunes qui se trouvent livrés à eux-mêmes. Malheureusement, c'est un constat que je fais.
Il y a beaucoup de migrants qui participent à ces violences.
Et pourtant, la mairie est formelle, les violences contre les personnes ont baissé dans la ville, comme le rappelle Pascal Bolo, l'adjoint à la sécurité.
La réalité, c'est que les faits de ce type sont plutôt en diminution actuellement à Nantes.
Et cela passe sans doute par une présence plus importante des forces de l'ordre depuis janvier 2021. 72 fonctionnaires sont ainsi venus étoffer les effectifs.
Les médecins sont en colère. Ce matin, le principal syndicat d'internes annonce une grande mobilisation en octobre pour protester contre l'allongement d'un an des études pour devenir généraliste, avec une quatrième année qui ne se ferait plus à l'hôpital mais en désert médical pour faciliter les installations futures, explique le gouvernement dans le cadre de son budget pour 2023 de la sécurité sociale. Les buralistes aussi en colère, je vous le disais, avec l'annonce du paquet de cigarettes bientôt à 11,50 € de plus en 2023, plus 35 € en 2024. Ça, c'est pour lutter contre le tabagisme, nous dit le gouvernement, mais Philippe Coy, un des représentants de la filière, redoute un bond des ventes illégales.
Les fumeurs sont une variable, j'ai l'impression, d'ajustement des budgets. C'est depuis des années la même recette et les mêmes politiques qui ont conduit un marché parallèle. 0,3% de marché parallèle en 2003, 30-35% en 2022. Donc aujourd'hui, nos Français, nos concitoyens, les fumeurs, sont amenés à acheter moins cher dans la rue de façon illégale. Et j'ai peur que ça devienne une habitude, un usage. Vous me direz, tout augmente, pourquoi pas le tabac? Mais attention, nous sommes déjà dans un circuit où le tabac est le plus élevé en Europe.
Je vous signale qu'après Carrefour, Leclerc ou d'autres enseignes, c'est Monoprix qui bloque les prix de 300 produits à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année pour faire face à l'inflation. Il est 7h33 sur RMC et donc Julien Bayou contre-attaque, l'écologiste accusé de violence morale sans aucune plainte, sans aucune enquête d'ailleurs judiciaire, est carrément poussé à la démission de ses fonctions de secrétaire national et le patron des Verts à l'Assemblée. Il conteste et son avocate, Maître Marie Lozé, évoque même une manœuvre politique chez les écologistes.
Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
Direction la région de Toulouse maintenant. C'est cette semaine qu'une plainte doit être déposée dans la petite ville de Fonsorbes. C'est près de Toulouse où Magali, 52 ans, employée municipale, s'est suicidée. C'était il y a un mois maintenant, sûrement sur fond de harcèlement de la part d'un responsable. Sa famille attend des réponses, d'autant qu'elle ne serait pas la seule victime, d'après les témoignages recueillis par Jean-Baudry Forquès et Lucie Rispal pour RMC.
Comme Magali, Jean-Luc, agent municipal à Fonsorbes, encore sous le choc, affirme avoir été victime de brimades et d'humiliations quotidiennes.
Ça a été une surcharge de travail et une pression constante sournoise et malsaine. Dans cette situation-là de stress, d'anxiété, j'ai forcément pensé à faire comme Magali, passer à l'acte et me suicider.
Et pourtant, certains comme Corinne, amie de Magali et collègue de travail, avaient bien tiré la sonnette d'alarme.
En octobre-novembre 2021, j'ai informé ma DRH en lui disant « Il faut que tu saches qu'un chef d'équipe est en souffrance. » Et rien pour faire la lumière là-dessus.
Les proches de Magali, ses enfants notamment, vont déposer plainte contre X. Leur avocat, maître Joris Morer, explique pourquoi.
Parce qu'on a besoin que les enquêteurs qui vont être nommés éclaircissent véritablement les responsabilités de chacun. On sait que dans cette mairie, il y a eu plusieurs agents qui ont fait des fautes. Maintenant, il va falloir déterminer qui a fait quoi.
Sur les conseils de leur avocat, la DRH, actuellement en arrêt maladie, et la maire de la commune n'ont pas souhaité répondre à nos questions, préférant se réfugier derrière l'enquête administrative actuellement en cours.
Les funérailles nationales de Shinzo Abe ont commencé ce matin au Japon. L'ancien Premier ministre assassiné en juillet dernier, funérailles controversées pour des raisons financières notamment. On a des premiers chiffres. En Russie, 6 jours après l'annonce de la mobilisation pour la guerre en Ukraine, ce sont plus de 260 000 hommes qui ont fui le pays selon un journal qui cite le FSB, l'ancien KGB. Et ceux qui restent craquent, des incidents comme des fusillades sont signalés depuis ce week-end. Des exemples avec Nicolas Robert pour RMC.
Un homme tire à bout portant sur un officier dans un centre de recrutement. La scène se déroule hier en Sibérie. Le suspect, un habitant de 25 ans, a été arrêté. Selon sa mère, interrogé par des médias russes, il n'aurait pas supporté que son meilleur ami ait reçu un avis de mobilisation. Un peu plus tôt, dans la région de Volgograd, c'est un commissariat militaire qui a été visé par un incendie. L'auteur présumé a assuré qu'il voulait éviter d'être envoyé en Ukraine. Depuis mercredi dernier et l'annonce de la mobilisation partielle ordonnée par le président Vladimir Poutine, de plus en plus de Russes ont du mal à cacher leur angoisse. Plusieurs personnes sans aucune expérience militaire ou ayant dépassé l'âge de combattre ont reçu l'ordre de rejoindre le front. Hier, pour la première fois, le Kremlin a finalement reconnu des erreurs dans la mobilisation qui doit permettre d'envoyer 300 000 troupes supplémentaires en Ukraine.
Et puis on essaye de se consoler comme on peut avec les Bleus du football. On n'est pas très optimiste pour le Mondial après la défaite 2-0 contre le Danemark. Mais on a une chance d'avoir le Ballon d'Or, ça c'est ce que nous dit Jean-Pierre Papin. C'est ce qu'il dit au micro de RMC, lui qui est un des 4 Français récompensés par ce trophée et qui croit en Karim Benzema. En attendant la cérémonie, ce sera le 17 octobre prochain.
Moi je pense que c'est Benzema. Je ne pense pas qu'il ait une bonne chance, je pense que c'est lui le Ballon d'Or de cette année. Il a, par ses performances, gagné la Ligue des Champions avec le Real. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui est à son niveau. Ce qu'a fait Karim cette année, c'est juste magique. C'est normal, qu'il soit français ou pas, c'est normal que ce soit lui qui l'ait.
Voilà Jean-Pierre Papin, JPP, qui participait au match des Légendes hier soir à Nice, match caritatif à l'initiative de Pascal Olmeta et dont RMC est partenaire.
Et puis le quintet, Quentin, c'est à Compiègne.
13h50, RMC découverte, l'As, le 3, les pronos ce matin de la Dream Team RMC, l'As, le Huron, voilà le favori, le 3, Happy Day en Outsider.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Et cette question ce matin, où placer le curseur entre libération de la parole des victimes et ce qui ressemble de plus en plus à une forme de tribunal arbitraire? Le cas de Julien Bayou, qui vient de démissionner de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, pose cette question. Bonjour Maître Temim.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. On se retrouve dans un instant pour tenter de répondre à cette épineuse question.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 sur RMC.
L'invité du jour.
C'est vous, Maître Hervé Temim, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes vraiment l'un des ténors du barreau. Vous avez défendu Bernard Tapie, Roman Polanski, Richard Berry. De nombreuses personnes ici vous connaissent et connaissent votre voix très libre dans cet univers. Et cette question autour de ce qui ressemble à un tribunal arbitraire. Alors, on parle de tribunal médiatique, n'est-ce pas plus un tribunal arbitraire? La démission hier de Julien Bayou, qui se défend avec ces mots. Je le cite, il dit « Je dois démissionner parce que je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont les accusatrices disent que ces faits ne sont pas pénalement répréhensibles et dont je ne peux pas me défendre. »
Écoutez, c'est même fou, parce que quand vous relisez cette phrase, en réalité, il aurait dû dire « Je ne dois pas démissionner parce que je suis accusé de faits que je ne connais pas, etc. » On est dans une situation tout à fait particulière, peut-être un point de bascule, c'est pourquoi je suis très content de répondre à vos questions, parce que c'est un sujet très compliqué, très grave, sur lequel je réfléchis beaucoup, depuis longtemps, et pas seulement comme avocat. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'on atteint une limite qui n'est pas acceptable.
Pourquoi point de bascule ?
Alors, point de bascule, parce que, si vous voulez, dans les accusations qui ont été portées par Madame Rousseau à la télévision... Il y a quelque chose d'incroyable, c'est ce qui a été révélé le lendemain, mais qu'on comprenait à demi-mot dans son interview, par Patrick Cohen, c'est-à-dire qu'elle a dit bah, le problème dans cette affaire, c'est qu'il n'y a rien de pénalement poursuivi.
Alors, je rappelle la séquence. Sandrine Rousseau est invitée de C'est à vous la semaine dernière, sur le plateau, au micro, publiquement en direct. Elle accuse Julien Bayou d'avoir une attitude de nature, je cite, à casser moralement une femme. Elle dit avoir d'ailleurs reçu le témoignage d'une ancienne petite amie de Julien Bayou, qui, dit-elle, a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses jours. Et pourtant, hors micro, là pour le coup, et donc plus publiquement, elle dit aux journalistes présents autour de la table « Non, non, mais en même temps, il n'y a rien de pénalement répréhensible. »
Oui, alors ça, c'est là où il y a une gravité, à mon avis, certaine de la situation dans laquelle on se trouve. Et évidemment, dans un débat où tout propos qui nuance la discussion est perçu comme manquant d'humanité à l'égard de la personne qui a fait une tentative de suicide, comme n'étant pas assez sensible à la cause de la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est exactement, à mon avis, le contraire. Parce que là, j'ai l'impression même que la cause risque d'être desservie. Moi, j'admets que, quand on est une personne publique, a fortiori en charge de responsabilités politiques, le secret de la vie privée tombe complètement, on peut le regretter, de facto, quand il vous est reproché quelque chose de pénalement répréhensible. Même pas nécessairement très grave. Ne nuançons pas. En revanche, si on considère qu'on peut jeter en pâture sur la place publique un responsable politique, mais je dirais quiconque un responsable politique, pour des faits qui sont indéfinis et qui ne constituent pas une infraction pénale, on franchit une barrière gravissime. Celle du respect minimal de la vie privée et des droits minimaux que chaque personne doit
avoir. Quand il n'y a pas de plainte, quand il n'y a pas de procès, il n'y a pas de défense.
Quand il n'y a pas de plainte, pas de procès, il n'y a pas de défense. Mais surtout, quand il n'y a pas d'infraction, s'il n'y a pas d'infraction, ça c'est ce qu'on tient de Mme Rousseau elle-même, s'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas à faire un procès. Un procès n'a de sens que si la loi est violée, la barrière. Ce qui peut peut-être nous réunir par rapport à la question que vous posiez, c'est que la barrière, c'est la loi et l'application de la loi.
Alors après, Maître Temim, ce que répondent notamment les groupes politiques quand ils se rendent compte de ce genre de fait ou pas, en l'occurrence sur Julien Bayou, mais je parle même d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, là pour le coup, il y a eu une plainte déposée, enfin une main courante au départ, mais qui a été rehaussée en plainte. Il y a eu une reconnaissance des faits, puisque Adrien Quatennens, pour le coup, lui, reconnaît bien avoir giflé et eu des attitudes violentes à l'endroit de sa future ex-femme, et là il démissionne. Mais le problème, c'est que si on attend que la justice passe, on n'est pas dans le même timing.
Mais je suis d'accord pour entendre ça. On peut pas lutter contre des évidences et contre son temps. D'abord, les deux cas me paraissent un peu différents. Moi, je vous parle de la problématique posée par l'affaire Bayou, et je ne le connais pas. La seule personne que je connais.
Je précise que vous ne défendez ni l'un ni l'autre.
Je ne défends absolument pas et je ne suis pas du tout opposé à la personne qui a fait ce signalement, qui a envoyé ce mail. Mais là où il y a une vraie différence, c'est que, bien sûr qu'on peut pas attendre le temps de la justice. C'est pour ça que, on peut le regretter. C'est pour ça que je vous disais que, eh bien, le secret tombe quand il y a une accusation.
C'est dommage. Finalement répréhensible.
C'est parfois très dommage parce que la seule décision qui compte, c'est la décision judiciaire.
Mais quand vous dites, maître, qu'on est à un point de bascule, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous vous dites, au fond, là, on a été trop loin dans le coup de balancier, dans l'accusation sans preuve, sans fait, avec des hommes qui, du coup, parce que c'est principalement des hommes, se retrouvent à être mis sur la place publique et à être contraints à la démission, tout en reconnaissant qu'ils n'ont rien, en tout cas, à leurs yeux, à se reprocher.
Personnellement, je suis pas sûr qu'on soit encore au bout du mouvement du balancier.
C'est quoi le bout ?
J'en sais rien. Pour moi, le bout, ce sera...
Je me sens assez inquiet. C'est quoi le bout ?
Oui, pour moi, le bout, ce sera... J'ai étudié un peu ce qui s'est passé partout. Le bout, ça risque un jour d'être un drame. Un drame qui mette à bout un homme, ou une femme, un homme probablement, enfin j'espère que ça n'arrivera pas, accusé d'un fait qu'il n'a pas commis, dont l'innocence aura été démontrée ou actée, et qu'il n'aura pas démissionné de fonction, mais aura peut-être lui aussi commis un acte terrible, un acte suicidaire. Ce que je dis simplement, dans le cas de Monsieur Bayou, attendez, il n'était pas obligé de démissionner. Vous dites contraint à la démission. Il n'est pas contraint à la démission. Pour moi, il n'était pas contraint à la démission. Non, je ne crois pas qu'il était contraint à la démission. C'est son choix. Ce qui est grave, c'est que ce qui est porté là, sur Monsieur Bayou, c'est un jugement qui est un jugement qui semble être purement moral, voire même moral et très personnel. Enfin, vous vous rendez compte quand même.
Je disais bien, c'est ça la distinction.
Mais c'est d'un la côté, distinction.
La même semaine des faits de violence qu'il a reconnu, et de l'autre côté, Julien Bayou, ce serait des faits moralement répréhensibles, mais pas pénalement.
Mais ce que je veux dire, en tout cas, je ne connais rien de cette histoire, mais enfin, quiconque a vécu une relation amoureuse intense sait la violence, la douleur que peut provoquer une séparation. Si on commence à juger nos hommes, nos femmes politiques, nos hommes, nos femmes publiques sur leur comportement amoureux, mais où va-t-on? On va bientôt les juger en tant que père ou mère. Qui peut dire qu'il est une bon père, une bonne mère? On va juger leurs pratiques sexuelles, peut-être les connaître, mais il y a une sphère de la vie privée qui doit être infranchissable dès lors que la loi n'est pas violée. Alors s'il y a une plainte à porter, qu'elle soit portée, et là malheureusement ou heureusement, j'en sais rien parce que vos métiers sont essentiels, eh bien on paie le prix de son statut de personne publique.
Est-ce que désormais il y a une sorte d'obligation d'être vertueux et qui peut décider qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas?
Mais je crois que personne ne peut décider qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. Obligation d'être vertueux, certainement pas. D'être conforme à la loi, oui. D'être cette notion d'exemplarité, j'ai entendu une de mes consoeurs et amies parler de notion fascisante, je n'irai pas du tout aussi loin. Cette notion d'exemplarité, elle est évidemment très relative, mais je crois, moi, que nos décideurs publics, nos responsables politiques, qui exercent des fonctions qui sont facultatives, j'ai pas choisi de faire de la politique. Quand on choisit de faire de la politique, oui, je pense qu'il faut avoir un comportement irréprochable par rapport au respect de la loi. Mais enfin, on va pas juger nos comportements privés. C'est impensable. Enfin, voyons, moi, sinon, je serais incapable d'exercer. Qui peut, d'ailleurs, porter sur soi-même un jugement suffisamment serein et tranquille pour être sûr qu'il est exemplaire? On aimerait tous pouvoir l'être, mais même en tant qu'avocat, alors je vais devoir être exemplaire, vertueux jusqu'au bout. Et vous, et tout le monde dans tous les métiers, il n'y a pas de métier où finalement on ne doit pas montrer un exemple. On peut le demander à nos sportifs, c'est parfois trop leur demande. Enfin bref, c'est sans fin. Non, moi je crois qu'il faut quand même s'élever contre une espèce de police de la vertu dont les effets peuvent être, à mon avis, très graves. Et bien sûr, vous posiez la question, et bien sûr qu'il faut encourager le respect de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais pas de cette manière-là, on dessert la cause.
Et vous-même, vous dites que peut-être qu'on est dans ce point de bascule qui pourrait même desservir la cause si on va encore plus loin. Maître Hervé Termim, merci infiniment,
Hervé
Termim, d'être venu exprimer ce point de vue ce matin, cette police de la vertu qui vous effraie. Il est 7h49 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Une sorte de pichenette cosmique. Voilà un peu le principe de la mission Ondar. Elle s'est déroulée cette nuit très haut au-dessus de nos têtes pour dévier une astéroïde. Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas, un vaisseau spatial s'est volontairement écrasé cette nuit sur un astéroïde pour essayer de dévier sa trajectoire. C'est une première dans l'histoire de la conquête spatiale.
Oui, et ça s'est passé à 1h14 cette nuit et à 11 millions de kilomètres de la Terre. Là-haut se trouve un petit astéroïde qui est grand comme à peu près trois fois l'Arc de Triomphe et qui s'appelle Dimorphos. Il tourne autour d'un autre astéroïde qui est lui beaucoup plus grand et qui lui-même tourne autour du Soleil. En novembre dernier, la NASA, l'agence spatiale américaine, a fait décoller de Californie un petit vaisseau donc qui s'appelle DART, ce qui veut dire fléchette en anglais. Et cette fléchette qui pèse 500 kilos, qui est grande à peu près comme une voiture, avait rendez-vous cette nuit avec Dimorphos pour s'écraser dessus, pour heurter le gros caillou à la vitesse de 22 000 km/h. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Et l'événement a pu être vécu en direct sur le site de la NASA.
Oui, donc on avait une caméra. Grâce à cette caméra sur le vaisseau, elle a envoyé une image toutes les secondes. On a donc vu d'abord un petit point brillant au loin, puis ce point a grossi jusqu'à occuper toute l'image. Et les dernières images étaient incroyablement nettes. On y voyait très bien la surface de ce gros caillou. Et puis, soudain, plus rien, le noir à l'image, ce qui était la preuve que la mission avait réussi. Avant la collision, le vaisseau avait aussi largué un autre mini-satellite qui est gros comme une boîte de chaussures et qui était équipé d'une caméra. Ce satellite, conçu par des Italiens, devait filmer le crash à une distance d'environ 50 km et donc nous offrir un autre point de vue, sauf que l'on ne recevra pas ces images avant plusieurs semaines.
Et que doit provoquer exactement cette expérience?
Alors, elle doit modifier la trajectoire du petit astéroïde. Pour l'instant, il fait le tour du plus grand astéroïde en 11h55. Si les calculs des ingénieurs de la NASA sont exacts, à l'avenir, il effectuera cette révolution non plus en 11h55, mais en 11h et 45 minutes, 10 minutes de moins. Ça peut paraître un changement minime, mais c'est historique. Parce que si ça marche, ce serait tout simplement la première fois que l'homme parviendrait à modifier la trajectoire d'un corps naturel dans le système solaire. On ne saura pas tout de suite si l'expérience a réussi, parce que il est possible que le choc de cette nuit mette des mois avant de commencer à produire ses effets. En 2024, l'Europe enverra une nouvelle mission spatiale qui ira voir de près ce qui s'est passé exactement et qui nous donnera des résultats en 2027.
Est-ce qu'il existe un risque qu'un jour cet astéroïde arrive sur la Terre ?
Alors pas du tout, absolument aucun risque, c'est uniquement une expérience qui est menée, parce que si un jour un astéroïde devait être plus menaçant, eh bien grâce à ce qui s'est passé cette nuit, on pourrait savoir quelle est la force nécessaire pour faire bouger cette trajectoire. Il y a environ 27 000 astéroïdes qui circulent autour de nous, on estime que dans les 300 ans qui viennent, les risques de collision d'un astéroïde avec la Terre sont de 0,05%, c'est peu, mais c'est pas un risque nul, d'où l'intérêt de s'y préparer. Le crash de cette nuit est considéré comme la toute première expérience de ce que l'on pourrait appeler la défense planétaire, l'idée d'être capable de détruire ou d'éloigner un astre qui nous menacerait.
Absolument passionnant, j'adore. Nicolas Poincaré, il est 7h56, vous restez avec nous dans un instant. La météo, le journal, et d'ailleurs à la une du journal de 8h, vous l'entendrez, il y a une réunion cruciale qui s'ouvre pour les maraîchers.